long chaîne.
Liberté, on n'est pas enchaîné. Hein.
Bon, alors, l'idée de cette rencontre, c'était d'une invitation aux élus locaux et régionaux. Alors nous leur avons envoyé une invitation. Donc,
Martine Faure, vice-présidente du Conseil général de la Gironde. Isabelle Dexpert, conseillère générale du canton de Villandreau. Jean Pérégueux, président de la communauté des communes de Villandreau. Jean-Jacques Paris, président du Conseil général de la Gironde. François Carbon, vice-président du Conseil général d'Aquitaine. Jules Vallon, à Uzest. Subvention du département de langue régionale d'Aquitaine. Et des environs.
Ça s'évapore.
Mais ils sont à ça. Et que voulez-vous? Il n'y a que les élus locaux des communes d'environ qui se magnent le festival pour que ça bouge. Autrement dit, l'élu local est peut-être plus intéressé par les choses qui bougent que l'élu intermédiaire. Intermédiaire d'hier.
C'est la présence dans le désert, c'est le prix de la tente dans la tente du moment.
Ils sont en vacances, et on a droit des vacances. Et c'est pas lui-même qui dira qu'on n'a pas droit des vacances, parce que c'est un homme du social.
On aurait pu faire une séance de spiritisme.
Ils sont en train, en vacances, de préparer le procès de Lubat. Lubat sera certainement condamné à refaire la 30e édition de l'Estéjada. Tout seul et sans subvention cette fois, ça la prendra à durer.
Et Jean-Jacques Paris, c'est pas président du Conseil général.
Ben Jean-Jacques Paris, il n'est pas là. Souvent, il est là. Mais là, il est en vacances. On a trois vacances. On a trois vacances.
Alors, citoyen Lubat, depuis que vous vous êtes livré à la justice, j'ai été mandaté par le nouveau procureur des tribunaux du peuple universel. Et je suis donc chargé d'instruire votre dossier afin d'éclairer totalement le tribunal des charges qui sont portées sur vous. Alors vous allez être soumis à la procédure inquisitoire. Les témoins appelés sont absents, mais vos questions, les questions qui vont vous être posées, vos réponses vont nourrir votre dossier. Et peut-être que d'autres dans la salle vont compléter les charges portées contre vous ou votre défense. Toutes vos réponses seront enregistrées, relues et authentifiées par votre signature pour servir dans votre jugement devant l'histoire. Je rappelle votre état civil. Vous êtes né à Uzès en 1945, je crois, de Alban et Marie Lubat. Alors, je vais poser un certain nombre de questions. Je vais les grouper pour que vous puissiez répondre. La première concerne la fureur. Est-ce que la fureur vous a habité tout de suite à votre naissance? Et quelle est la place de la fureur, de la colère, de l'indignation dans la création artistique, comme dans la citoyenneté? Est-ce que vous pensez qu'il doit y avoir un droit à la fureur? Par ailleurs, à quel moment de votre vie avez-vous commencé à déplacer les murs? Je veux dire que l'artiste, comme le citoyen, sont ceux qui posent l'acte d'apparaître à tous pour constituer l'espace public. Mais ils apparaissent à des places plus ou moins assignées. Michel Debré avait écrit dans un petit opuscule d'il y a une trentaine d'années que le bon citoyen est celui qui, lors des consultations électorales, fait son devoir, puis retourne à ses affaires privées, laissant les politiques accomplir le mandat qu'il leur a donné. C'est comme on le voit une citoyenneté croupion, avec des chemins balisés et un droit d'initiative réduit. Il en va de même pour l'artiste qui peut, par une œuvre scandaleuse dans sa création, mais dans le cadre d'une recherche de notoriété, ne pas bousculer les schémas de la notoriété. Donc le tribunal aimerait en savoir un peu plus sur ces déplacements de murs qui semblent être une de vos activités préférées. Alors, le tribunal ne va pas vous interroger publiquement sur la double démarche politique que tout le monde connaît, dont vous venez de faire l'objet de la part de deux personnalités, et dont VSD et Clouseur ont rendu compte récemment. Comme chacun le sait donc, Madame Royal aimerait votre avis sur son projet de transformer le ministère de la Culture en un ministère de l'encadrement militaire de la pensée et de la création. Par ailleurs, Monsieur Sarkozy, bizarrement, souhaite également vous consulter sur son idée, à lui, qui est de supprimer complètement le ministère de la Culture. Mais, il voudrait nettoyer au Karcher les locaux de la rue de Valois pour en faire un très grand centre de rétention pour les étrangers. On aurait enfin dans ce domaine une politique digne et équilibrée qui symboliserait la nouvelle culture de la France. Alors le tribunal ne vous demande pas de communiquer publiquement vos réponses sur ces questions, sauf si vous souhaitez le faire par ces grands journaux d'opinion que sont VSD et Closer, mais le tribunal souhaitera savoir à titre confidentiel, vous pourrez lui remettre une note, si vous avez répondu et en quels termes. Alors j'en viens encore à une question et ensuite vous allez avoir la parole et puis ensuite il y aura d'autres tranches de questions. Vous prenez, citoyen Lubin, vous prenez la gratuité. Alors, est-ce que la gratuité doit être un droit? Est-ce que la gratuité n'a pas été un droit à un moment où la doctrine du service public, dans certains domaines qui d'ailleurs se sont étendus pendant quelques décennies, ont gagné, ces domaines ont gagné, l'éducation, la santé, les transports et la culture. Il y a une période, une jurisprudence du Conseil d'État sur le service public de la culture. Et qui dit service public dit gratuité. Mais c'est évidemment une fausse gratuité parce qu'on ne peut pas échapper à l'échange dans la culture et que l'échange suppose l'action d'individus qui doivent vivre. Et donc la gratuité, ça veut dire le soutien de l'État. Alors nous voulons, le tribunal souhaite avoir vos premières réactions à cette série de questions. Et je crois que vous êtes assisté par votre avocat. Il pourra vous aider si vous êtes obligé.
Évidemment, oui. Alors écoutez, je plaide coupable de non-culpabilité. Je reconnais que j'ai mis l'enfance heureuse. Ça a beaucoup joué sur mon développement en tant qu'adulte, oui. Et donc, à partir de là, dans ce bonheur de l'enfance qui m'a habité depuis tout petit déjà, j'ai toujours eu des rapports assez jouissifs avec l'autorité. Depuis tout petit déjà, je cherchais l'autorité partout. Mon père avait une automobile. Et donc je cherchais Alors j'étais dans un... Alors c'est cette enfance m'a joué des tours terribles parce que je croyais que je pensais. Après j'ai pensé que je croyais. Donc tout de suite, avec donc nos responsables élus, zélés de la notion, qui s'occupent de nos affaires, de notre service public, ça a tout de suite été le grand amour, de ma part. J'arrivais vers l'élu, oh toi l'élu, c'est moi, je te aime. Donc l'élu, vous savez ce que c'est l'élu, tout tout le monde lui parle, tout le monde lui demande des choses, tout le monde dit ce que tu peux avoir, tu peux intervenir, on peut être machin, etc. Bon, c'est compliqué, quoi. Et ma confusion vient de ce malaise, malaise, entre parenthèses, antithèse, foutaise. Donc ça. En plus, je viens d'un milieu social difficile où je n'ai pas eu les moyens, et mes parents n'ont pas eu le moyen de me payer le psy qu'il lui fallut au moment donné. Donc, je suis devenu artiste par inadvertance. Je sais bien que ce n'est pas bien, mais je ne l'ai pas fait exprès. Alors, je demande au tribunal de prendre en considération cet élément qui est que ben, je ne suis pour rien.
Un déchargement de responsabilité.
Ben je demande, ou alors un psy, ou un psychiatre, peut-être, c'est encore peut-être possible, mais je suis coupable d'innocence. Alors j'ai voulu en parler justement aux élus, si on faisait une fête où on serait tous des coupables d'innocence, et puis vous seriez vous-même pour une fois coupable d'innocence, puisque l'élu devenant élu se sent zélé, et il se sent, en plus comme la religion a perdu du poids dans la région, les élus ont pris en charge une espèce de messianisme, quoi, qui fait que ça les dépasse, quoi. Je les comprends, et plus je les comprends, plus ils me fuient. Plus je cherche à les comprendre, je dis alors, mais vous avez une enfance heureuse, malheureuse, vous l'avez fait exprès d'être élu, les psys n'étaient pas libres, alors vous êtes présente aux élections. Donc je réfléchis, quoi, alors j'essaie de porter cette interrogation, ce trouble même psychopathétique qui m'envahit, évidemment. Alors ça fait des sons bizarres, et donc j'ai frôlé la sociale, je reconnais. J'étais à deux doigts de la sociale. Pourtant j'ai une enfance heureuse.
En sa faveur, sûrement pas, parce qu'il vient de dire ce qu'il ne fallait pas dire. Bernard a l'air de plaider quelque chose comme l'irresponsabilité. Non, c'est lui qui est complètement responsable de la situation. Parce que dans sa vie, il a été artiste. C'est une responsabilité d'artiste. Et puis, il a voulu se mêler d'autres choses. Il a voulu se mêler la vie. Des citoyens dans un territoire rural, etc. Alors là, voilà un artiste qui veut sortir de son secteur, ça c'est tout à fait irresponsable. Donc ça c'est ta responsabilité. Irresponsabilité, tu peux pas. Tu savais bien qu'en tant qu'artiste, tu es un génie, que tout le monde t'adore, mais tu restes un génie, surtout tu ne te mêles pas de la vie citoyenne, tu ne te mêles pas de ces questions-là, et là tu es assez grand pour savoir que tu as dépassé la limite. Donc aujourd'hui, devant toi, tu as un silence, le silence des élus, et ça c'est de ta faute. Tu devrais savoir qu'un artiste, ça doit rester. Un artiste, ça fait causer. Tu sais, comme dans Queneau. Dans les causes, c'est tout ce qu'il sait faire, c'est le paroquet qui dit ça. C'est ça que tu aurais dû apprendre. Je te l'ai dit pourtant 100 fois. Mais tu as jamais voulu me croire.
Je ne suis pas croyant, je suis pratiquant.
Bon, alors moi, je dois poursuivre l'instruction, parce qu'il faut que je rende compte au tribunal du fond des choses. Si les projets politiques sur lesquels vous êtes consultés, que j'ai rappelé tout à l'heure, n'aboutissaient pas, et s'il reste des institutions publiques, culturelles, non militaires, quel doit être leur rôle ? Présenter une offre culturelle, grande scène nationale, etc., ou soutenir les offres culturelles des citoyens. Mais alors, comment faire, quel est votre point de vue, pour que ce soutien ne soit pas un contrôle? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des critères au choix que doivent faire les responsables politiques en matière culturelle, ou bien est-ce que c'est une question indécidable? Autrement dit, à ce sujet, comment faire pour que l'espace public soit véritablement l'espace de tous? Parce
Parce qu'actuellement, ce que l'on appelle l'espace public est de plus en plus privatisé parce que conditionné par les politico-financiers. Alors comment restituer la capacité collective à identifier le geste de l'artiste et à le partager et à le soutenir?
Justement, les élus se sont occupés de la question et ont entrepris de réfléchir sur l'adéquation de manifestations, disons, identifiées sous le titre, sous le terme de, par exemple, de festival des buvettes du monde, festival de vedettes et de navettes, festival de musique facile à voter. Et ça marche pas mal. Quoique, économiquement, c'est assez difficile, puisqu'il y a des hauts débats, les orages, etc. On ne sait pas, un jour, il y a 15 000 personnes, le lendemain, il y en a 2 000, enfin, c'est très difficile. Et pourtant, ils font des efforts. J'ai participé à pas mal de manifestations dans la région, comme ça, il y a même des festivals de camping, vous voyez, des festivals de parking, des festivals d'auto-tamponneuses. Enfin, c'est en pleine expansion. Et il y a beaucoup de monde, et alors il y a beaucoup, on peut manger tout le temps. Alors qu'ici, enfin voilà. Et on peut, je voudrais les aider, les élus, je leur propose, mais oui, ben non. Sans doute mon innocence, vous savez, de toujours cette histoire d'enfance heureuse, quoi. Ça c'est terrible, parce que là, c'est terrible, j'arrive au milieu de tout ça, je fais un grand sourire, c'est la cata, quoi. Je suis joyeux, heureux, disponible, je tape sur mes tambours. Que demande le peuple? Moi, j'ai bien eu. Je me suis renseigné, je me promène dans la région et. J'essaye de comprendre. Alors, l'autre jour, j'étais dans un village, je voyais un gendarme qui faisait la circulation et je lui demande pouvez-vous m'indiquer la route du Zest, s'il vous plaît? Et il m'a répondu avec ou sans musique. Un autre jour, un journaliste local au marché, en gros, là, il dit bonjour monsieur, c'est pour le journal Sud-Ouest, une interview au trottoir. Que pensez-vous de Bernard Lubat? Je dis moi je ne fais pas de politique. Une dame qui me dit que pensez-vous de Bernard Lubat? Il a une certaine réputation, trouble d'ailleurs, mais je pense que c'est un imposteur, un escroc, ça ne vaut rien. Et puis elle tourne à l'étalon, elle est partie. Un jeune homme, que pensez-vous de qui ça? Je ne connais pas. Ah, c'est du jazz. Et il resta planté là. Et que pensez-vous de. Ah ben, écoutez, en effet, il y a un problème. Hein. Mais lequel? Excusez-moi, je suis mal garé. Une autre personne, que pensez-vous de Bernard Lubat? Oh, moi, j'y vais pas. Quand même, à nos âges. Hein. Une jeune fille, que pensez-vous de Bernard Lubat? Qui? Ah, le musicien du Zest. Ah oui, c'est pour les vieux. Bonjour, monsieur le maire. Que pensez-vous de Bernard Lubat? Ah, mais c'est paraît-il un grand artiste, mais alors cela ne lui donne pas le droit de prendre le sens interdit de la rue Fazard, quand même. L'autre qui dit, que pensez-vous, monsieur? Un autre maire, du coin. Ah ben écoutez, je ne le connaissais pas, mais au-delà de la musique qu'il joue, et à laquelle je ne comprends absolument rien, c'est un garçon charmant, cultivé, avenant, doté d'un solide sens de l'humour. Comme quoi, hein? Et d'autres, comme ça, je pourrais citer un autre. Que pensez-vous de Bernard Lubat? D'abord, je pense ce que je veux, et c'est pas ce monsieur qui viendra me donner des leçons. Que pensez-vous de notre corps? Ah, là, vous tombez bien. Je n'en pense que du bien. Les gens ne se rendent pas compte de la qualité de l'artiste, de l'homme, du citoyen et des conséquences locales qu'il produit comme éducateur, pédagogue, entraîneur, sensibilisateur, contradicteur, mais toujours à l'invention d'un processus, toujours 20 à 30 ans d'avance, toujours à l'écoute du monde, du local comme du mondial. Une paire. Ce type est un diamant pur qui ne pourrit pas mieux, qui éclaire. Évidemment, tout le monde n'est pas de cet avis. Heureusement pour lui. Dans la région, la création artistique contemporaine n'est pas encore perçue à sa juste place. Ne faisant pas partie du paysage historique, Luba se préoccupe d'écrire de l'histoire à venir, c'est son dada. Tout le monde le sait, une chance pour le pays. C'est un type formidable. Les gens disent ça. Hein. Donc une inquiétude aussi. Dans la quiétude du pantoufleur. Mais rassurez-vous, l'homme est tenace. C'est un poète paysan qui a pas mal voyagé et qui n'a pas d'âge. De César Perreux. Je voudrais ajouter que Luba se plante, mais ne ment pas. La vérité. Plus parti, hein. Ce ne sont pas des preuves. C'est vrai, ce ne sont que des traces. Pour ce qui est de mon futur, je ne sais pas si je serai jugé coupable ou innocent, quelle sera la sanction, quelle sera la peine que j'aurai à accomplir. Même si c'est quelques années de prison, je demanderai un piano à queue. À Gradignan, peut-être je peux avoir un piano à queue, ou alors un piano droit. Je préfère un gauche, mais bon. Et donc, évidemment que je m'attends à des sanctions, puisque quand vous serez parti, puisque vous êtes une couverture, vous êtes l'excuse, c'est à cause de vous que je fais tout ça, comme disait Picasso. Si je joue une musique aussi désagréable à l'oseille, c'est à cause de vous. C'est à cause de vous que je joue comme ça. C'est à cause de vous que je suis innocent.
Sub-sanction.
Est-ce que vous ne pourriez pas, je voudrais vous aider un peu dans ce processus difficile quand même qui a commencé pour vous, est-ce que vous ne pourriez pas peut-être plaider le droit dans une démocratie à être minoritaire?
J'y ai pensé, mais ça m'est arrivé avant de le penser. C'est toujours cette enfance heureuse. Je suis né minoritaire. Et puis quelquefois, je me suis dit qu'on était très nombreux dans ce cas. Mais que, bon, par le mérite de l'éducation et de la civilisation, on était élevés à devenir majoritaires. Hein, avoir atteint cette majorité, je sais pas dire, cette espèce de sommet de chiffres qui font que ça s'agglutine. Minoritaire. Je reconnais que je suis coupable d'être minoritaire. Mais c'est sûr que je reconnais mon incapacité à organiser un festival qui fasse plus de 10 000 personnes par jour, avec 700 bénévoles, 190 restaurants, 1100 buvettes, 17 parkings, 47 campings. C'est vrai, je reconnais que c'est un peu mégalo, c'est vrai.
Voilà, on peut peut-être revenir à l'art et au rapport avec la politique culturelle. Je ne sais pas, comme artiste, quelle est votre réflexion sur est-ce qu'il y a des lois dans l'art, est-ce qu'il y a des gardiens de ces lois? Est-ce qu'un artiste isolé peut faire bouger les lois, c'est-à-dire les lois de l'expression artistique elle-même et les lois de la diffusion? Autrement dit, est-ce que si ce n'est pas une question de loi, c'est une question de négociation? C'est la fameuse opposition entre la loi et le contrat. Est-ce qu'on est dans le champ de quelque chose d'universellement reconnu qui appartient à la loi? ou est-ce qu'on est dans le champ de la négociation permanente, c'est-à-dire du contrat? Et alors, si tout doit être négocié, est-ce que cela doit être négocié entre tous les citoyens qui participent à créer l'art, en posant l'œuvre pour l'artiste et en la pression pour les autres? Mais est-ce qu'il n'y a pas aujourd'hui, dans cette négociation, des pollueurs qui interviennent et qui polluent la négociation et qui sont les médias, le marché, etc.? Enfin, ils sont partenaires de la négociation et du coup les autres acteurs sont marginalisés. Est-ce que le caractère minoritaire n'est pas lié à ça?
Oui, plus l'histoire. Ici, pour arriver jusqu'au fond des ici, d'avant, sous la loi, le contrat, faut organiser des dépressions. Sans dépression, pas d'action. Plus est médical, musical, médicinal, comme on veut, organise des dépressions, notamment intellectuelles. Ce qui est finalement qui fait moins boire que dans d'autres endroits d'ailleurs. Cette dépression à laquelle que les politiques, les élus, il ne faut pas confondre élus et politiques. Il y a beaucoup d'élus qui ne font pas de la politique. L'élus, aujourd'hui, c'est devenu une possibilité, dans les périodes de précarité, de survivre et de subvenir à ses besoins, qui est honorable. Mais parfois, ça n'a qu'un rapport lointain avec la politique. Et donc, ce que j'appelle dépression, ce sont des incurvés, des espèces d'absentes. J'appelais ça, je cherchais, et peut-être est-ce ma plus grande culpabilité, la question de la décroissance. Et pain au chocolat. C'est je pense que je suis coupable de poser une question de pain. Qu'on peut difficilement tomber plus bas. La loi et le contrat. Il y a des endroits où on n'en est mais surtout pas là. Ce qui n'empêche pas et qui imprime la nécessité évidemment de les penser. Mais ici, ce où, puisque tout à l'heure vous parliez de art et de diffusion, art de la diffusion de l'art, et non pas art de la diffusion du pâté, ou pâté de la diffusion du pâté, du pathos, quoi. Et que, où sont les régions de cette sensibilité, de ces absences, de ces silences? Dépression, les politiques, pression, mais sont sous la pression. C'est pour moi des sous pression, c'est une cafetière qui va exploser. Quoi. Donc, je suis coupable, évidemment, de proposer des espaces de respiration de la pensée où, en effet, je reconnais, c'est pas clair. Je sais que je suis un musicien blanc. Pas clair. Ce qui pose problème, en effet, à la nation, à la nationalité et donc à la citoyenneté. Et que les conséquences esthétiques de mes errances ben, travail un minoritaire actif. Je suis un minoritaire actif, endiablé. Vous avez vu, en 30 ans, on n'a pas réussi à dépasser les 400 personnes par jour. Ce qui est quand même remarquable. Mon avocat dit que je suis indéfendable.
Vous êtes obligé de commettre un avocat d'office. Est-ce que quelqu'un veut être commis avocat d'office?
Je veux dire pourquoi Bernard est vraiment indéfendable, parce qu'en fait, c'est pas lui qui est en jeu. Lui, il vit sa vie comme il veut, avec son piano, avec ses discours, avec ses rapports aux élus. En fait, il est notre propre miroir depuis 30 ans, et c'est en fait nous qui avons rien réussi de plus que ces 400 personnes. C'est nous, hein, nous, collectif. Je veux dire, on ressort d'ici, on croit qu'on a vraiment avancé, on a avancé peut-être chacun individuellement, mais on n'a pas fait plus. Alors moi, je vais vous raconter ma vie pour bien montrer, hein, dans ma responsabilité, comment, à partir du bas, on échoue, et puis chacun fera son examen de conscience, parce que là, le tribunal populaire, je veux dire, c'est à lui de se demander s'il a même... s'il ne doit pas lui-même s'accuser. Moi, j'ai été DRAC dans cette région. J'étais directeur régional des affaires culturelles. Alors, Lubin arrive dans mon bureau, en 92, en me disant « Je m'appelle Bernard Lubin, je fais de la musique, ça, il me sort un petit discours PC, etc. » Au bout de 30 secondes, j'ai dit « Écoutez, M. Lubin, c'est pas la peine, on ne va pas discuter de votre musique, ça, je connais, c'est pas la peine de me la faire sur la création, les machins, c'est pas l'enjeu. C'est pas la peine de venir me convaincre, donc c'est un vieux jazzeux. Bon, voilà, passons à autre chose. » Mais qu'est-ce que c'était le problème? C'était de savoir si, à Uzès, il était possible d'avoir un artiste avec toute une bande d'artistes et que ce ne soit pas anecdotique pour le développement de la société, pour ce qui pouvait se passer dans ce territoire. Et donc c'était comment construire avec des énergies formidables liées à la création un vrai développement qui ne soit pas simplement économique au sens combien de personnes au festival, mais qui soit vraiment un développement humain, l'art de la diffusion de l'art. Donc construire là toute une logique, avec des hébergements, autant que des stages de formation, avec des laboratoires, enfin, inventer une nouvelle ville, une nouvelle façon d'être ensemble à partir d'une équipe artistique. Et comment faire en dehors même, je vous rappelle là, en dehors même de l'UBA si jamais il se passait quelque chose. Que ce ne soit pas personnalisé, parce qu'on ne peut pas faire une politique publique sur une seule personne. Le temps du gaullisme a un peu dépassé, donc quelque part, c'était si Bernard est pas là, est-ce que ça continue? Eh bien, moi, je me suis mis, on a dit, tiens, on va inventer une scène nationale en milieu rural. Et je vais la vendre au ministère, comme concept. Voilà, je vais la vendre comme concept. Avec l'idée de pouvoir effectivement développer une vivre ensemble en milieu rural avec des artistes, même si Lubin n'était pas là. Eh bien, ce qui s'est passé, c'est que cette idée-là, qui était la suite logique, chacun à sa position, moi, en tant qu'administrateur, lui, en tant qu'artiste du discours, eh bien, elle a échoué. Elle a échoué sous des gens de droite, au niveau du ministère. Elle a échoué sous des gens du PS, au niveau du ministre, elle a échoué, au niveau même du PC, quand c'était un ministre PC qui était. Elle a échoué tout le temps, sous toutes les formes politiques, locales, nationales. Elle a échoué. Et à chaque fois, le discours était le même, ça on ne l'a jamais entendu dans une assemblée comme ici, moi je l'ai entendu dans les couloirs. Écoute, Lubin, c'est un bon artiste, mais on ne va pas lui en demander plus. C'est-à-dire que laissons le secteur artistique dans sa place dans la société, qui est une place uniquement d'un secteur qui a vécu, en général, fin du mois d'août, pour ce qui concerne lui, un peu en hiver, mais pas plus. Ça ne porte pas d'enjeu. Les vrais enjeux, c'est ailleurs, c'est l'emploi, c'est le chômage, etc. Il n'y a pas d'enjeu entre la vie globale de la société, son avenir, et la vie d'artiste. Le seul lien qu'il y a entre les deux, c'est un disque, un festival, une petite émission de télé de temps en temps, et puis ça s'arrête là. C'est un bout de secteur dans la cervelle, c'est un bout de secteur dans l'organisation sociale, et d'ailleurs, c'est jamais grand-chose de la vie culturelle, de la vie artistique, dans une politique publique, d'une région, d'une collectivité, d'une commune et de l'État. C'est quand même pas ça le centre. Et donc c'est cet échec de mettre l'art au cœur de la société que nous aurons envoyé, non pas Bernard Lubin, parce que Bernard Lubin, c'est que Bernard Lubin, et il le sait très bien, c'est que tout d'un coup, on était plusieurs à vouloir se battre sur un terrain fort qui était est-ce qu'il y a de l'art possible dans une société, et là on a échoué parce que tout d'un coup on a rencontré des gens qui nous ont dit écoutez, on a autre chose à faire avec l'argent public, et donc on a été obligé de revenir à ce qui est aujourd'hui le débat, c'est on parle de Bernard, mais en fait non. Pourquoi ça ne fait pas écho à Bernard une société comme la nôtre? C'est pas uniquement à cause de la marchandise, du grand capital, de la mondialisation, de la faute des autres. C'est aussi la façon dont nous on vit notre citoyenneté par rapport à cette question de l'art, par rapport à la santé, etc. Regardez un truc très passionnant. Mais c'est pas hors du sujet. Il y a un truc qui sort, ça s'appelle le CPE, précarité des jeunes. Tout d'un coup, il se passe quelque chose. 6 mois après, il n'y a plus de CPE. Regardez les intermittents, 2 ans avant, ils foutent le feu à Avignon. 4 ans après, 5 ans après, 6 ans après, rien n'a bougé. Personne n'a été en manif avec eux, rien n'a bougé. La société s'en fout complètement de cette tension que les intermittents ont pu mettre dans ce système, alors que pour un truc qui n'existait pas encore comme le CPE, ça a été jusqu'à un changement de décision politique. Ça, c'est tout à fait intéressant. C'est cette absence d'embrayage entre l'art et le mouvement citoyen qui est, au fond, le vrai procès de Bernard Luba. Il y avait tout pour réussir, même un ministre PC, même un drague volontaire, et bien on n'y a pas réussi parce que quelque part, il y avait là une logique qui fait que la négociation n'a pas été plus loin que celle du discours. Mais après tout, on aura l'honneur pour nous. Voilà, je te défends comme ça.
Oui, moi, je ne sais pas s'il m'interroge. Est-ce que la raison de ce que vous venez de rappeler, c'est-à-dire un blocage indépendamment des interlocuteurs politiques, est due à ça? Ou est-ce que ça n'est pas plutôt qu'en posant la question de l'implantation de ce genre de festival ici en milieu rural à Uzest, sous le label développement humain, est-ce qu'on a dit les choses comme elles sont vraiment? Il me semble, moi, que le problème du festival est beaucoup plus politique que ça, parce que développement humain, c'est plus social, je dirais. Il me semble que ce que Bernard tente de faire depuis des années, c'est de créer un foyer de résistance à un système de plus en plus mondial. Alors, donc, c'est pas la recherche n'est pas la recherche du développement humain, on va tous être bien, on va croître, on va être heureux et cultiver. La question est-ce qu'à travers l'art, et donc un art qui ne peut pas être négocié, jusqu'au bout, est-ce qu'à travers l'art, nous ne sommes pas en train de nous construire des positions de résistance? Et c'est là que moi je vois un lien éblouissant entre l'art et la politique, entre l'artiste et le citoyen, parce que ce sont des questions redoutables pour la démocratie. La démocratie d'aujourd'hui, moi je me souviens d'avoir fait une conférence sur le droit de résistance en droit international et d'avoir eu des collègues qui m'ont répondu « Mais de quoi parlez-vous ?» Le droit a prévu les moyens de la résistance. Il n'y a pas besoin de poser la question d'un droit de résistance. Et par exemple, dans la société française, nous sommes en démocratie, nous avons tous les moyens légaux de la résistance. Il y a des recours judiciaires, il y a des médiations, il y a des pétitions, il y a des manifestations, il y a des élections. Suivez tous ces chemins et vous résisterez. Alors nous savons bien que c'est complètement faux. Parce que les limites de tout ça sont posées par le marché, par les médias, et quand les médias sont à l'œuvre, qu'est-ce que c'est qu'une manifestation dont les médias ne rendent pas compte, ou à laquelle les médias n'appellent pas, hein? Donc on le voit bien, ces jours-ci, à propos de la guerre au Liban, pas de grands mouvements, pas de grandes manifestations, parce que le contexte médiatique, économique, etc., ne porte pas à déclencher ce genre de grande manifestation et ensuite à en rendre compte. Parce qu'une manifestation n'existe que si les médias en rendent compte. Alors, le droit de résistance, moi, c'est ça que je sens ici qui m'intéresse. Le droit de résistance, qui évidemment est d'autant plus grand qu'on est minoritaire, une nécessité d'autant plus grande qu'on est minoritaire, c'est la nécessité de déborder la démocratie et les moyens qu'elle offre, parce qu'ils ne sont pas suffisants. Donc il faut aller plus loin, et quelquefois ça va jusqu'à désobéir à la loi. Que faisons-nous? Je suppose qu'il y en a d'autres que moi par ici, à soutenir les enfants d'étrangers qui se font virer par Sarkozy. Nous désobéissons à la loi, et nous l'avons dit, nous l'avons écrit. Alors, la question lancinante dans la démocratie, c'est c'est sa propre instabilité permanente, c'est-à-dire le fait qu'elle doit se déborder à elle-même tout le temps. Est-ce que la résistance est un droit? La vraie résistance, non. On ne peut jamais la stabiliser comme un droit. Le droit de contester le droit ne peut pas exister, parce qu'à ce moment-là, le droit n'est plus le droit. Le droit, il veut être respecté, non pas contesté. Alors, ce qui est compliqué, c'est que vous avez deux entrées de contestation de la loi. Celle que je viens de rappeler comme droit de résistance. Et puis, vous avez ce que les philosophes contemporains ont quand même bien mis en lumière, notamment dans les dernières années, c'est le fait que le souverain lui-même désobéisse à la loi en décrétant l'état d'exception. Le souverain dit la loi et il lève la loi, quand ça lui plaît, parce qu'il se sent lui-même en difficulté, alors il lève la loi, il appelle ça l'état d'exception. Et donc la loi, je fais allusion à la loi, c'est quand même important, c'est en principe ça qui nous rassemble. Et qui stabilise nos sociétés. Nous avons aussi besoin de stabilisation pour que la violence ne déborde pas de partout. Donc la loi, qui est cette chose utile, ce point d'équilibre qui fait lien dans une société, peut être attaqué de deux côtés, au nom de plus de démocratie, par un débordement dans lequel la démocratie se déplace pour se retrouver davantage être de la démocratie, et puis la loi peut être attaquée au nom de moins de démocratie, par une restriction autoritaire du pouvoir qui, tout d'un coup, dit « je lève la voix ». État d'exception qui peut prendre des modalités extrêmement subtiles. Alors, ça vient du fait que l'union entre le pouvoir et le peuple dans la loi, c'est toujours quelque chose de très éphémère. Et c'est vrai aussi qu'une fois que la loi est posée, je parle comme juriste, il est terrible le rôle des juristes, quand la loi est posée, il n'y a plus d'invention. La loi, elle coupe l'invention. Les droits, ils se cherchent et ils se fixent. Et là, c'est la loi. N'imaginez plus rien, c'est ça. Alors, la vraie démocratie doit submerger la loi en permanence et déplacer l'exigence plus avant. C'est ça, l'agir en commun. Et alors, on revient à l'attitude de l'artiste. C'est ça que je trouve ici, moi. Mais moi, je me demande si, quand tu te poses cette question que je trouve lancinante et passionnante, comment grandir sans grossir? C'est ça la question. Mais je crois que grandir sans grossir, c'est migrer encore plus loin. Et notamment dans ce champ de l'universel, qui est le champ de l'artiste, pour moi, et le champ du citoyen, car je ne conçois pas de citoyen enfermé dans aucun cadre. Je crois qu'il faut essaimer par des concubinages, des alliances diverses et lointaines. Et au fond, ce que les partenaires, les élus locaux refusent ou chipotent parce qu'ils ne comprennent pas bien, peut-être qu'on peut le trouver par des alliances avec d'autres artistes d'ailleurs, qui eux auront peut-être un soutien mais très loin. Par des sortes de, comme on fait aujourd'hui, de la coopération décentralisée, des jumelages de villes, etc. Je pense que c'est des réseaux étonnants d'artistes qui ont en commun cette recherche-là, qui au fond est une recherche de résistance. Je ne sais pas ce que tu penses de ça.
Mais je pense que nous y sommes déjà dans cette dialectique avec d'autres ailleurs. Mais néanmoins, les autres ailleurs comme nous ici avons les mêmes problèmes de nous accueillir, puisqu'aujourd'hui, le syndrome moraliste, sécurité, salubrité devient très très fort. Il entre dans les morales. Ces débordements-là, aujourd'hui, la démocratie, elle est contenue par cette rigidité, sécurité, salubrité. C'est étonnant de voir comment le citoyen s'engouffre là-dedans. Je viens d'avoir la commission de sécurité, salubrité qui est passée ici. J'essayais de les titiller un peu sur mais j'avais l'impression de voir des gens qui sont prisonniers d'un fonctionnement qui m'inquiète, qui me rappelle un peu comme ici derrière, vous avez un lieu qui était un laboratoire de recherche OGM, semi clandestin, qui était juste derrière la maison, là, Monsanto, je ne sais pas si vous savez, le grand orphelin, un grand laboratoire de recherche, il était la dernière là. Donc ça sent très mauvais. Il y a de la vigne, ils ont fait, je ne sais pas quelle recherche ils ont fait, moi je suis pour la recherche évidemment, mais là il y a quelque chose de très troublant qui rappelle l'histoire, c'est que d'un seul coup je me suis renseigné, j'ai vu les voisins, oui, on a des odeurs, ça nous fait mal à la tête, c'est... mais personne n'en parle parce que ça fait 15 ans que ça dure. Je ne sais pas si la municipalité touchait des pots de vin pour pouvoir laisser. Et alors ce lieu-là qu'on préoccupe, il était tabou, il était dans les ronces. C'est-à-dire que la population locale, on savait qu'il y avait quelque chose là, mais on ne voulait pas savoir ce qu'il y avait là. Alors, ça me rappelle des choses en Allemagne, quoi. Il y avait des camps, à côté, il y avait des habitants qui ne savaient pas ce qui se passait dans les camps. Alors, ce n'est pas le même degré, mais parfois, je me demande si ce n'est pas déjà, ou si ça continue. Cette façon qu'on a d'être sourd, quoi, d'être sourd à soi-même après avoir été sourd au monde. Quoi. C'est pour ça que la musique joue un rôle étrange là-dedans, puisque. Et le pire des rôles aussi, puisqu'elle accompagne. Il me semble aussi beaucoup de lassitude devant lesquelles on se trouve les uns et les autres par rapport à nos vies réciproques. Là, il y a une espèce de... Donc cet endroit-là, c'est troublant quoi, qu'on ait choisi cet endroit, c'est un des plus beaux lieux du village qui était entretenu, tabou, planqué, parce que culpabilité collective. Donc une lassitude. Et la problématique de la dialectique, quelque part, entre citoyens et société, comment on peut la réfléchir, l'articuler, la transformer, par quels moyens ? Moi, je pense qu'un des seuls qui puisse travailler à l'intimité de la personne, c'est l'art, c'est-à-dire la proposition qui nous renvoie à nous-mêmes devant l'œuvre d'art. Pour moi, l'art, c'est quand je me trouve devant une œuvre, qu'elle soit picturale, musicale, etc., devant laquelle je me dis, mais qui suis-je ? Hier, j'écoutais Usminor jouer là-bas, je les écoutais avant d'aller jouer à l'Estaminet, j'ai traîné le plus possible pour les écouter, parce que j'étais vraiment pris par cette question, mais comment ils font ? Comment ils jouent ? Attends, oui, le tempo, petit à petit, j'étais porté par cette question, que m'envoyait l'autre, les autres, de qui suis-je moi ? C'était pas une représentation de moi-même, un clone. Alors que dans le silence de la lassitude par rapport à cet espace derrière, c'est l'inverse, c'est la grégarité. On devient tous des pantins. Donc, aujourd'hui, je savais que les élus locaux ne viendraient pas, je les ai invités tout de même, espérant que, parce qu'on se parle, mais il y a un autre point où on peut se parler entre nous, mais pas en public. Aujourd'hui, si vous voulez faire un débat public, si on vous répond, ah non, non, pas en public. Parce qu'on ne sait plus parler, parce que je ne sais pas, on ne sait plus penser, parce qu'on ne pense pas à ce qu'on dit. Et alors, on cherche la personne avec laquelle on va être présupposé être d'accord, comme ça il n'y a pas de conflit. C'est-à-dire que je suis inquiet dans une société qui devient psy-politiquement incapable d'affronter le conflit avec l'autre. Comme si le conflit, c'était... Donc s'il n'y a pas de conflit, ça veut dire qu'on va vers la guerre civile. Si on n'est pas capable du conflit intellectuel, verbal, de la confrontation, vers où allons-nous quand ça va exploser ? Bon, écoutez, écrit